Je lis dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 63, au verset 7. Je rappellerai les bontés de l'Éternel, ses actes dignes de louange, tout ce qu'il a fait pour nous. Je dirai tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. Il avait dit, « Assurément, ils sont mon peuple, des enfants qui ne s'adonneront pas au mensonge. » Et il a été un sauveur pour eux. Dans toute leur détresse, il a souffert avec eux, et l'ange qui était devant lui les a sauvés. C'est lui-même qui les a rachetés dans son amour et sa compassion. Et constamment, par le passé, il les a soutenus et portés. Cependant, ils se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. Alors son peuple s'est souvenu des jours passés, de l'époque de Moïse. Où est-il celui qui les a fait sortir de la, ressortir de la mer avec les bergers de son troupeau? Où est-il celui qui mettait son Esprit Saint au milieu d'eux? Où est-il celui qui envoyait son bras splendide à la droite de Moïse, qui a fendu l'eau devant eux, se faisant ainsi une réputation éternelle? Où est-il celui qui les a conduits dans les profondeurs de l'eau comme un cheval dans le désert, sans même qu'il trébuche? Comme un troupeau qui gagne la vallée, l'Esprit de l'Éternel leur accordait le repos. Voilà comment tu conduisais ton peuple, te faisant ainsi une réputation splendide. Regarde du haut du ciel et constate la situation du haut de ta sainte et splendide résidence. Où sont passés ton zèle et ta puissance? Ta profonde tendresse et tes compassions envers moi ne se font plus sentir. C'est toi cependant qui es notre Père. En effet, Abraham ne nous connaît pas, Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père. C'est toi qui, depuis toujours, t'appelles notre libérateur. Éternel, pourquoi nous fais-tu errer loin de tes voies? Pourquoi endurcis-tu notre cœur pour qu'il ne te craigne pas? Reviens à cause de tes serviteurs, à cause des tribus qui t'appartiennent. Ton peuple saint n'a été que peu de temps en possession du pays et nos adversaires ont piétiné ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé de ton nom. Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Tes adversaires connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu as fait des prodiges que nous n'attendions pas, tu es descendu et les montagnes se sont effondrées devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu pareille chose. Jamais aucun œil n'a vu un autre Dieu que toi agir de cette manière pour ceux qui comptent sur lui. Tu vas à la rencontre de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui se souviennent de toi en marchant dans tes voies. Cependant, tu as été irrité parce que nous avons péché. Pourtant, c'est en les suivant toujours que nous pouvons être sauvés. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs, et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille, et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. Cependant, Éternel, c'est toi qui es notre Père. Nous sommes l'argile, tu es notre potier, nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Ne t'irrite pas à l'excès, Éternel. Et ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Pourtant, tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert. Jérusalem est un endroit dévasté. Notre saint et splendide temple où nos ancêtres célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. Devant tout cela, Éternel, te retiendras-tu d'intervenir? Vas-tu garder le silence et nous humilier à l'excès?
Cette prière d'Ésaïe, c'est une des prières qui, selon les théologiens, est une des plus grandes prières de réveil de toute l'Écriture. Nous allons aborder quelques aspects de cette prière ensemble. Ce texte est un texte qui est riche, il est encourageant et accablant à la fois. Encourageant, parce qu'on le verra ensemble, il montre l'œuvre de Dieu, les bontés de Dieu. Il montre aussi l'effet du péché et il montre la grâce de Dieu. Et souvent, on a dit que Ésaïe, c'était le cinquième évangile. Et là, on voit beaucoup de choses dans ce passage, dans ce sens. Ésaïe écrit ce texte en l'an, enfin, on ne sait pas exactement l'année précise, mais on va dire à la louche, 700 ans avant Jésus. Et pourtant, ce texte nous parle de Noël aussi. Cette prière ressemble aussi à notre vie un peu de chrétien, je trouve. Si on est chrétien, des phases de proximité avec le Seigneur, des phases d'éloignement avec le Seigneur et des phases de retour vers le Seigneur. Au cœur de sa prière, et c'est ce qui me fait penser à Noël, il y a ce verset, alors ça dépend des versions, parfois c'est le dernier verset du chapitre 63, parfois c'est le premier du verset du chapitre 64. Il y a cette phrase, « Ah, si seulement tu déchirais le ciel et tu descendais !» Il faut que la situation change pour le peuple d'Israël. Et peut-être, c'est ce que je vous propose ce matin, il faut peut-être que la situation change aussi pour nous dans nos vies. Ésaïe est en train de dire en substance, regarde au Dieu du haut du ciel. Regarde la situation, ta profonde tendresse, tes compassions envers nous se font plus sentir. Pourtant, tu es notre Père. Tu t'appelles le libérateur. Et pourtant, nous sommes loin de toi. Nous avons le cœur endurci. Pourquoi est-ce que tu nous fais errer loin de tes voies? Pourquoi est-ce que nous avons ce cœur endurci? Reviens, si seulement tu déchirais le ciel et si tu descendais, ça changerait des choses. Ne t'irrite pas à l'excès, ne te souviens pas indéfiniment de notre colère. Et au verset 6 du chapitre 64, il y a cette phrase qui nous fait un peu tilt et je ne sais pas si on peut se l'approprier pour nous ce matin. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Il n'y a personne qui se réveille. Est-ce que nous serions endormis? En tout cas, c'était le cas du peuple. Tout le monde est endormi. Le peuple a besoin de réveil. Et bien sûr, comme à chaque fois qu'on parle de réveil, ça veut dire qu'il y a la vie. On ne peut pas réveiller quelqu'un qui est mort. Le réveil s'adresse avant tout à des chrétiens, avant tout à des gens qui ont goûté l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et quelle était cette vie, en tout cas pour le peuple d'Israël? C'était une vie de relation avec Dieu. Et je vous propose de voir quelle était cette relation avec Dieu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était cet éloignement avec Dieu? Et finalement, comment le retour vers Dieu est possible? Cette vie avec Dieu, premièrement, elle est décrite dans ces premiers versets que Claire a lus. Cette prière d'Ésaïe, finalement, elle est remplie de mots qui décrivent une relation. Le christianisme est avant tout une relation. Le christianisme est quelque chose de vivant. Ce n'est pas une tradition, ça l'est devenu peut-être, mais c'est avant tout une relation avec un Dieu qui est là. Et Ésaïe l'a bien compris parce qu'il dit, je me rappelle de tes bontés, je me rappelle de la façon dont tu as agi. Et il fait pas mal aussi référence à ce qui s'est passé du temps de Moïse. Et tout au long de sa prière, il utilise des mots pour décrire cette relation. Alors, je ne sais pas si vous les avez repérés, mais il y a cette question de peuple. Ils sont mon peuple. Ils sont mes enfants. Je les ai rachetés. Ils sont mon troupeau. Je suis le potier. Vous êtes l'argile. Et puis finalement, moi, celle qui me touche le plus, je ne sais pas si vous l'avez repérée aussi, c'est quand Ésaïe dit plusieurs fois, en tout cas trois fois dans ce texte, « Pourtant, tu es notre Père. Tu es notre Père. Tu es notre Père. » On a tous eu des pères, hein, sinon on ne serait pas dans cette salle. Plus ou moins bon. Et là, Ésaïe nous dit, nous encourage à repenser à notre relation à Dieu comme la relation avec un père. Et puis, donc, il nous dit, bien sûr, donc, dans cette relation au Père, tous les bienfaits, toute la bonté de Dieu. Par exemple, le premier verset, enfin, le verset 7, disons. « Je dirai tous tes bienfaits, tous les bienfaits qu'il a accordés à la communauté d'Israël, conformément à ses compassions et à la richesse de ses bontés. » Et le texte, il va plus loin, il ne parle pas uniquement des bontés, mais il parle aussi du fait que Dieu a sauvé le peuple d'Israël. Et dans leur détresse, il a souffert avec eux. C'est lui-même qui les a rachetés, dans son amour et sa compassion. Et constamment, par le passé, il a soutenu son peuple, il a porté son peuple. Magnifique. Magnifique promesse de voir que Dieu, non seulement il fait preuve de bonté, et même quand on a l'impression qu'il ne fait pas preuve de bonté, dans nos souffrances, dans nos détresses, dans nos difficultés, il souffre avec nous. Il a souffert avec eux. C'est le verset 9 qui nous dit ça. Il a souffert avec eux. Et dans ce processus de réveil pour le peuple, il y a l'importance de se souvenir. Le souvenir est quelque chose de très important. Alors, dans cette salle, il y a des jeunes et des moins jeunes. Peut-être pour les moins jeunes, on va dire ça comme ça, c'est plus facile de se souvenir. Ou alors, parfois, c'est même déjà un peu vieux, peut-être pour les moins jeunes. Mais en tout cas, de voir l'œuvre de Dieu dans nos vies. Jésus dit par la plume de Jean dans l'Apocalypse à l'église d'Éphèse, « Souviens-toi d'où tu es tombé. » Et il dit ça à l'église d'Éphèse pour lui dire, voilà, reviens à ton premier amour, souviens-toi. Il y a l'idée du souvenir. Ça aide de savoir, c'était beau, c'était bien. Ésaïe, c'est ce qu'il fait ici, ça vaut la peine. Et dans nos vies, hein, si on applique ça à nos vies, rappelons-nous de tous ces moments, ou peut-être déjà de ce moment, où si Dieu nous a rachetés, hein, quand est-ce que peut-être j'ai donné ma vie à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Des moments où j'ai été délivré, des moments où j'ai été conduit, des moments où j'ai été porté aussi dans mes détresses. On vit dans une société qui va à 100 à l'heure. Hein. Je pense que vous vivez la même société que moi. Hein. Et cette notion du souvenir a été évacuée. Parce que, voilà, il y a les enfants à emmener à l'école, il y a les paperasses à faire, il y a le travail, il y a machin, les réunions, il y a etc., etc. Et la question du souvenir est évacuée. Ici, Ésaïe s'arrête et il dit « Je veux me souvenir. Je veux me souvenir de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. » Et c'est un encouragement aussi, déjà pour nous en ce temps de Noël, nous souvenir, nous rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. On pense bien sûr à la conversion. Mais on peut aussi penser à plein d'autres aspects. Qu'est-ce qu'il a fait de nous dans notre jeunesse? Par exemple, dans les camps, hein, si certains ont fait des camps ici. Qu'est-ce qu'il a fait dans notre année d'école biblique, pour ceux qui ont fait une école biblique? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous au moment du mariage? quand on a emménagé dans notre première maison, quand on a réussi un examen à l'école, quand on a réussi à avoir un poste de travail, quand on a eu des enfants. Voilà, la liste est longue. Rappelons-nous, qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous dans notre vie? Et il y a ici un contraste, hein, je le disais tout à l'heure, saisissant, je trouve, entre ce temps de reconnaissance et une cassure. Bam! D'un coup, là, il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est comme on s'est habitué, voilà, on est rentré dans un train-train, on a perdu de vue le fait d'être reconnaissant. Qu'est-ce qui a amené le peuple dans cet état? Et j'arrive à mon deuxième point, c'est l'éloignement de Dieu, l'éloignement du Père, on pourrait dire. Et le verset 10 est aussi comme une douche froide du chapitre 63, parce qu'il nous dit « Cependant, ils se sont révoltés. Ils ont attristé son Esprit Saint, de sorte qu'il s'est transformé pour eux en ennemi. Il a lui-même combattu contre eux. » Ils se sont révoltés. Je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a fait un petit parfum. J'aime bien les films de science-fiction, enfin, ces histoires, Seigneur des Anneaux. Ça allait bien, il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu un événement. Et là, c'est une révolte. Ils se sont révoltés. Et maintenant, suite à cette révolte, il y a un état qui est assez déplorable. Le peuple, peut-être Esaïe fait ici peu référence à la période d'exil que le peuple va vivre. Et il dit, je vous lis quelques extraits. « Nous sommes depuis longtemps comme un peuple sur lequel tu n'exerces pas ta souveraineté et qui n'est pas appelé par ton nom. Ne te souviens pas indéfiniment de notre faute. Nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes se sont transformées en désert. Sion est un désert. Jérusalem, un endroit dévasté. Notre saint et splendide temple où nos ancêtres célébraient tes louanges est devenu la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux est en ruine. » C'est vraiment la désolation. Donc ça, c'est l'état du pays et il y a aussi l'état du peuple. Nous sommes tous devenus comme des objets impurs. Et toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Nous sommes tous aussi fanés qu'une feuille et nos fautes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui fasse appel à ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. C'est que tu t'es caché à nous et tu nous laisses nous liquéfier par l'intermédiaire de nos propres fautes. La révolte du peuple a emmené une cassure dans la relation. Il y a la dévastation dans le pays. Et puis finalement, un peu comme un enfant qui se réveille, hein, les jeunes parents le savent, l'enfant tout à coup il se rend compte, mais voilà, je suis seul, là. Enfin, où est-il? Où est papa? Où est maman? Alors, on entend ça parfois, papa il est où? Maman il est où? Surtout maman d'ailleurs. Et puis là, dans ce texte, Esaïe... À plusieurs reprises, il dit « Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? » Verset 11 à 13, il y a trois fois « Où est-il ? Celui qui nous a fait tout ça. Où est-il ? Où est-il ? » Hein, c'est vraiment un réveil. Tout à coup, on se réveille. Je suis où ? Où est-ce qu'il est ? Et c'est beau aussi, je trouve, de se dire que dans une relation avec un père, donc ici, ça parle de Dieu comme un père, mais on peut aussi s'approprier ça comme dans une relation humaine avec un père. Même si quand il y a une cassure dans la relation, même quand il y a un éloignement, même quand il y a des dysfonctionnements, un père reste un père. Un enfant reste un enfant. Ce lien légal, ce lien est permanent. On ne peut pas l'effacer. Ce lien qui unit un père à son enfant ne peut jamais être effacé, même si la relation est abîmée. Hein, puis on se souvient aussi d'une autre histoire dans le Nouveau Testament. Hein. C'est laquelle? Quelqu'un voit. Voilà, c'est ça. Le fils prodigue. hein, qui part et au final qui revient. Et là, on a à peu près les mêmes étapes hein, dans Ésaïe. Et puis finalement, dans ce texte aussi, ce qui se passe, c'est que... Enfin, c'est un petit peu l'histoire de l'humanité. Dieu crée l'homme et la femme pour vivre une relation avec eux. Adam et Ève brisent cette relation en désobéissant. Et rapidement, on voit ça dans Genèse chapitre 3, Dieu parcourt les jardins. Et il dit quoi? Où es-tu? Vous vous souvenez de ces mots? Où es-tu, Adam? Il cherche Adam. Et Adam se cache, comme s'il pouvait se cacher de la présence de Dieu. Ici, on dirait que les rôles sont inversés un petit peu, hein, parce que c'est pas où es-tu, mais c'est où est-il? Hein, le peuple qui se réveille. Où es-tu, Dieu? On a besoin de toi. On a besoin, dans cet état de désolation où nous sommes, de ruines, de te retrouver, d'avoir une relation, une action de toi dans nos vies. Comme cet enfant qui, tout à coup, s'est dit « Mais où il est, papa? Où elle est, maman ?» Et puis, voilà, il y a ce verset que nous avons lu tout à l'heure, que j'ai souligné. « Ah, si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. Si tu reviens, ça va changer des choses. Ça va changer des choses pour le peuple entier. » Et pour nous aujourd'hui, ça va changer nos vies, si tu descendais dans nos vies. Et c'est intéressant de voir que dans chaque réveil historique, hein, donc ces mouvements où les gens reviennent au Seigneur, où les églises se remplissent, le premier facteur, vous savez ce que c'est? C'est qu'on se rend à nouveau compte de la présence de Dieu. On se rend compte que Dieu est là. Donc ici, dans un article de Packer, pour ceux qui connaissent, il disait, donc lui donne 9 points pour un réveil. Et le premier point qui fait qu'il y a un réveil, c'est que Dieu descend. Mais c'est pas... Dieu, il est partout, finalement. C'est pas que tout d'un coup, il est parti et il revient. C'est que à un moment donné, on se rend compte, Dieu est là. Dieu est là et ça devrait changer des choses dans ma vie. Troisième et dernier point, le retour du Père au cœur de nos vies. Le cri d'Ésaïe, « Ah, si tu déchirais le ciel et tu descendais », c'est le bon cri. Et Ésaïe va être exaucé. Et on le sait, et là, ça nous ramène directement à la décoration de cette salle. Ça nous ramène à la période de Noël, à la naissance de Jésus, 700 ans plus tard. Dieu va déchirer le ciel et il va descendre. Dieu va envoyer son Fils sur la terre pour nous réconcilier après cette cassure dans la relation. Notre rébellion nous séparait de lui, on s'était éloigné de lui, mais Dieu va s'approcher lui-même de nous. Ce n'est pas la première apparition. Il y a déjà eu d'autres, on pourrait dire Noël, hein, dans un sens, pas tout à fait, mais dans l'Ancien Testament, des apparitions en tout cas de Dieu sur la terre. Et j'en pense à une en particulier, c'est celle dans l'Exode. Juste avant qu'il y ait eu le don de la loi sur le mont Sinaï, Dieu, donc le peuple est rassemblé, là, hein, le peuple est sorti d'Égypte, il y a des milliers de personnes autour de la montagne, et Dieu dit à Moïse, préparez-vous, dans 3 jours, je vais descendre sur la montagne. Vous vous souvenez de cet épisode? Et il ne dit pas, voilà, préparez-vous, venez chanter des chants, et tout ça, montez sur la montagne, il y a une belle vue. Il dit, non, non, en fait, préparez-vous, mais faites gaffe. Que personne ne touche la montagne, que personne ne rentre, ne commence à monter la montagne. Parce que si vous le faites, vous allez mourir. Et 3 jours après, il y a des coups de tonnerre qui éclatent, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Et le texte nous dit, dans Exode 19, verset 16, qu'il y a une grande épouvante. Donc une épouvante, pour ceux qui ne comprennent pas ce mot, c'est une grande frayeur. Le peuple a peur. Et l'Éternel descend au milieu du feu. Et Moïse, lui, l'est autorisé à monter sur la montagne. Et il reçoit comme consigne, défense express, de se précipiter vers l'Éternel pour regarder. Et pour ne pas mourir. Il y a des limites qui sont là. Dieu descend sur la montagne. Mais on ne peut pas s'en approcher. Et à Noël, Dieu il descend sous une autre forme. Hein. Le contraste est aussi assez saisissant. Il descend comme un petit enfant. Et cet enfant, il va vivre la vie que nous aurions dû vivre et mourir de la mort que nous aurions dû subir. Et il va faire ça pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Pour qu'on n'ait plus cette frayeur de se dire « si je m'approche de Dieu, je vais mourir ». C'est l'accomplissement parfait. Et Noël, c'est ça, hein, c'est Dieu qui vient sur la terre pour établir la relation entre Dieu et son peuple. Entre le Père, hein, si on revient à Isaïe, le Père et ses enfants. Et donc là, il y a bien sûr une exhortation pour nous, hein. Soit nous appartenons pas encore au Père, nous ne sommes pas encore ses enfants, nous sommes ses créatures, que nous le voulions ou non, mais nous ne sommes pas encore ses enfants d'un point de vue légal. Et Noël nous montre, tu peux devenir enfant de Dieu, tu peux t'approcher de Dieu. Si tu crois à ce que Jésus a fait sur la croix, qu'il est mort pour tes péchés, pour ta rébellion. Et aussi, il y a une application pour ceux qui ont déjà fait ce pas de foi, pour ceux qui sont chrétiens, de ramener Dieu au cœur de nos vies. Ramener Dieu au cœur de nos relations. Tout à l'heure, dans ce chant, hein, il a été dit, « Mais si celui presque oublié pouvait tout changer, te redonner l'espoir, transformer ton histoire. » Et si jamais tu vois combien il t'a aimé, tu as tout à gagner. Et on voit, la présence de Dieu doit changer des choses. Doit changer nos vies. C'est pas qu'elle doit, c'est qu'elle peut et qu'elle veut changer les choses. La présence de Dieu change tout. D'ailleurs, dans Ésaïe 64, hein, c'est assez frappant. Hein. Parfois, on ne se rend pas trop compte, en tout cas moi. Hein. « Si seulement tu déchirais le ciel et descendais, les montagnes s'effondreraient devant toi. » Tu serais pareil au feu qui allume des brindilles ou fait bouillir l'eau. Alors nous, on se dit, voilà, bon, c'est poétique, quoi. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la présence de Dieu change des choses. Elle ne nous laisse pas les mêmes. Elle nous change, c'est une puissance de transformation qui transforme notre histoire. Et moi, j'aimerais simplement qu'on s'encourage à réfléchir tout à nouveau à ce qu'est-ce que la présence de Dieu doit changer dans ma vie. Est-ce que j'ai conscience du besoin de Dieu? Est-ce que j'ai conscience que Dieu peut changer mon histoire? Alors je conclue. Lors d'un retour au Seigneur, il y a toujours un réveil. Il y a toujours un cri. Où es-tu, Seigneur? Et le texte d'Ésaïe se poursuit donc au chapitre 65. Et Dieu, il ne va pas attendre 700 ans pour donner une réponse à Ésaïe. Et c'est assez fascinant. Le premier verset du chapitre 65, juste après... où ça arrêtait clair tout à l'heure. Il est dit ceci, « Je me suis laissé consulter par ceux qui ne me demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, j'ai dit, « me voici, à une nation qui ne faisait pas appel à mon nom. » Où es-tu? Où est-il? Où est-il? Et Dieu, il dit, « me voici. » Incroyable cette réponse. « Je suis là. » Tu te demandes peut-être dans ta détresse, dans tes circonstances de vie, mais Dieu, il est où? Je ne le vois pas, j'ai des doutes. Et Dieu, il est là, il est en train de nous dire, je suis là, me voici, me voici. Enlève tes doutes. Alors, comment est-ce qu'on peut remettre Dieu au cœur de nos vies? Comment est-ce que le Père peut revenir au cœur de nos vies? Comment est-ce qu'on peut ressentir la présence de Dieu? Est-ce qu'on doit attendre une émotion pendant un moment de culte? Ben oui, oui. c'est possible. Un moment de culte et un moment de présence de Dieu. À un moment, c'est très beau, hein, quand il y a la consécration du peuple, dans deux chroniques, le peuple se met à louer Dieu. Et vous savez ce qui se passe? Quelqu'un se souvient de ça? La gloire de l'Éternel descend. Dieu vient à la rencontre de son peuple quand il se met à louer. Et comment faire pour sentir la présence de Dieu ou pour vivre la présence de Dieu pour ceux qui sont moins sentimentaux? Louer Dieu, la louange. Comment faire encore pour bénéficier de la présence de Dieu? Déjà, ça commencerait par avoir le même désir qu'Ésaïe. Reprenez cette prière chez vous et dites, est-ce que moi j'ai cette même envie que Dieu déchire le ciel et vienne à ma rencontre? Vouloir la présence de Dieu. Comment bénéficier de la présence de Dieu en passant du temps avec lui? Comment est-ce que vous bénéficiez de la présence de vos amis, de votre conjoint? Vous passez du temps avec lui. Ça semble assez logique d'ailleurs. En méditant, par exemple, sa parole, passer du temps dans la louange, la présence de Dieu descend. Passer du temps aussi dans la prière avec des frères et des sœurs. L'Évangile nous dit quoi? Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La rencontre de prière. Puis vous vous rendez compte si on se disait, je vais à une autre prière pour vivre la présence de Dieu. Extraordinaire. C'est pas toujours ce que je me dis, hein. Mais c'est le propre du réveil. Vous savez, dans les réveils du Pays de Galles, les églises étaient pleines. Donc 1900, il y a 100 ans, le début de notre église quasiment. Enfin, pas Meynier, mais de l'Action biblique, qui est issue de ce réveil. Il n'y avait plus de place dans les églises. Les gens, ils ouvraient leurs maisons pour faire des rencontres de prière, parce que les églises étaient pleines. Ils se précipitaient dans les églises, il n'y avait plus de place, viens, on va faire ça chez moi. Dans les mines, ils s'arrêtaient de travailler. Dans les villes, les magasins fermaient plus tôt. Pourquoi? Parce que Dieu est descendu. Dieu est là. Je suis là. Me voici. Ils se rendaient compte, la présence de Dieu est là. C'est un truc exceptionnel. Et peut-être pour nous, c'est un encouragement de se dire, déjà personnellement, parce que ça, comme on l'a déjà dit, on ne peut pas le créer hein, nous-mêmes, ces mouvements. Hein. Mais ce qu'on peut créer, c'est en nous cette soif de Dieu, avec l'aide de l'Esprit. Et de réaliser, j'ai besoin de la présence de Dieu dans ma vie. Si celui presque oublié pouvait tout changer dans ma vie. Et parfois, on peut être très régulier ici, puis avoir oublié hein, la présence de Dieu. Peut-être il faut que je m'exerce tout à nouveau à écouter Dieu et à être conscient de sa présence. Et moi, j'invite chacun ici à prendre cette période de Noël comme l'occasion de se poser cette question, de réaliser que le réveil est possible. Dieu est venu à notre rencontre. Il est là par son esprit. Voilà, il y aura beaucoup de choses à dire hein, sur ce passage. Mais que Dieu nous bénisse et nous réveille lui-même. Qu'il nous rende conscient de sa présence parmi nous. Qu'il est ce Père qui veut cette relation. Et je vous propose un chant, donc pour un petit peu, comme un appel, comme une conclusion à cette méditation sur cette prière d'Ésaïe. Donc, Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Tu peux peut-être juste encore passer. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Et après, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Voilà, manifeste ta présence, revêt-nous. Voilà, après ça reprend. Voilà, qu'on puisse vraiment chanter ces chants. Si le Seigneur met à cœur, vraiment dans un esprit d'engagement, dans un esprit de foi, où on a envie de vivre cette vie qui est belle avec le Père. Retrouver cette relation forte, on en a besoin. J'en ai besoin.
Revêt-moi